En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis le drame syrien et la crise humanitaire sans précédent qui toque à la porte européenne, nos regards sont beaucoup moins tournés vers un autre conflit tout aussi tragique, le conflit israélo-palestinien. Le 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient fera office donc de piqûre de rappel. Du 29 mars au 17 avril, vous pourrez rencontrer, si vous êtes en Ile-de-France bien sûr, des réalisateurs égyptiens, libanais, syriens, palestiniens, qui font des films au regard singulier. C'est le cas de Simone Bitton, cinéaste juive arabe, dont les films forcent ou l'admiration ou l'indignation. Deux de ses films seront présentés lors d'un Focus Palestine, Mahmoud Darwish et la Terre comme la langue, et puis Rachel, réalisatrice d'exception qui voyage donc entre la France, Israël et le Maroc. Bonjour Simone Bitton.
Bonjour.
Vous voyagez également dans un pays qui s'appelle le cinéma. Est-ce que ça peut d'ailleurs être un pays, le cinéma ?
Ah oui, c'est tout à fait. C'est ça mon vrai pays. D'abord, il y a plein de pays que je ne connais que par le cinéma, et bien, je trouve. Et puis, c'est un pays, parce que partout où je vais, il y a toujours un cinéaste qui aura vu le film très pointu que personne n'a vu, sauf lui et moi, et on est du même pays.
Alors après avoir visionné quasiment tous vos films et après avoir un petit peu parlé avec vous au téléphone, j'ai moi un son et image en tête quand je pense Simone Bitton, mais nous on va attendre un peu pour l'image.
Moi je suis très fier d'être français, mais en même temps je suis contre le nationalisme. On défend des idées, on défend pas des territoires. J'aime la France parce que j'aime Joachim du Bellay. Et Louis Aragon. J'aime l'Allemagne parce que j'aime Beethoven. Je n'aime pas Barcelone à cause de l'Espagne, mais j'aime l'Espagne parce qu'une ville comme Barcelone existe. Ou l'Amérique parce que j'aime les voitures américaines.
Une mendiante est entrée dans le parc.
Je sais. C'est celle qui chante, vous savez.
Et le colonel Laurent.
C'est vrai que vous arrivez à Calcutta.
Mendiant en général.
Encore moins la Méditerranée.
Elle chante, il me semble.
Et Albert Camus.
Un chant de Savanaquet.
Non, j'aime la Bretagne.
C'est au Laos.
Je déteste le midi.
Elle nous intrigue.
En Bretagne, la lumière est toujours très douce.
Je me dis que je dois me tromper, ce n'est pas possible. Nous sommes à des milliers de kilomètres de l'Indochine ici. Comment aurait-elle fait ?
Merci. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a Godard, Duras, Oum Kalthoum. C'est un cadeau, oui. Tout ça m'est très proche.
Tout ça fait partie de votre bande-son intérieure, on pourrait
absolument,
dire ?
Absolument, absolument.
Vous aimez beaucoup de réalisateurs, bien sûr, mais pourquoi Godard en particulier ?
Ah ben Godard, parce que il est à la fois, esthétiquement, je trouve que c'est une explosion, c'est un grand artiste, on le dit pas assez, c'est un grand artiste visuel, Jean-Luc Godard. Et en même temps, il fait un film et il fait la critique de ce film est dans le film même. Donc, pour quelqu'un comme moi, qui non seulement fait des films, mais en voit beaucoup et tente maladroitement d'enseigner, c'est une école de cinéma et de beauté et d'intelligence à la fois. C'est ça qui est très rare, je crois, chez lui.
La fiction ne vous a jamais tenté, Simone Bitton ?
À vrai dire, non. De faire de la fiction, non. Je suis plutôt une bonne spectatrice de fiction, même un petit peu midinette, je dirais, sur les bords, en fiction. Mais en faire, non, pas du tout. J'ai peur des acteurs, c'est pas mon truc.
Un peu midinette, quand on voit vos films qui sont quand même d'une sacrée rigueur, ça fait réfléchir. Alors, au cours de ce 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient...
Oui, je peux... Vous avez dit que mes films suscitent...
L'indignation,
soit l'admiration, ça m'attriste un peu parce que il me manque l'émotion.
C'est vrai, mais à culpa. Parce que de l'émotion, vous n'en manquez pas. On va le découvrir donc au cours de ce 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. On pourra voir ou revoir Rachel, notamment. Il y aura une rencontre le 6 avril au cinéma L'Écran à Saint-Denis autour de ce film. Film que vous réalisez en 2009. C'est donc une enquête cinématographique sur la mort de Rachel Corey. Qui était Rachel ?
Rachel était une jeune américaine de 23 ans qui était une militante et qui est arrivée en Palestine dans le cadre d'une mission d'observation et de solidarité avec la population de Gaza. Et elle et son groupe se sont retrouvés assez vite à s'interposer entre des bulldozers israéliens qui détruisaient des maisons dans la ville de Rafah et ses maisons. Et Rachel est morte, écrasée par un de ces bulldozers qui n'a pas stoppé.
Alors, votre film commence sur des porte-voix tenues par des activistes d'International Solidarity Movement, ISM, venus donc soutenir les Palestiniens face aux bulldozers israéliens.
Comme je me souviens.
Oui, un film en souvenir de Rachel. J'imagine qu'il faut toujours un déclic pour se lancer dans la fabrication d'un film. Est-ce que vous diriez là, Simone Bitton, que c'est la colère qui vous fait prendre la caméra pour enquêter sur la mort de cette toute jeune activiste?
Non, je pense que c'était vraiment l'émotion. Une émotion plus proche de la tendresse que de la colère. J'ai découvert Rachel par ses lettres, par ses emails qu'elle écrivait à sa famille, dans lesquels elle racontait ce qu'elle découvrait. Voilà, une jeune américaine qui découvre la guerre, la souffrance, l'injustice, la pauvreté aussi, mais aussi l'hospitalité, puisque elle et ses camarades vivaient chez l'habitant, dans des familles palestiniennes. Et je pense plutôt que le film est parti de cette émotion-là, de cette jeunesse.
De son idéalisme ?
Tout à fait. Ça fait longtemps que je n'ai plus 23 ans. Voilà, elle m'a reportée en arrière. Je n'avais pas son courage à son âge, mais je pense que j'avais en moi ce drive d'aller, s'il le faut, contre sa propre tribu pour aller vers le faible, vers celui qui pourrait bénéficier de ma protection. Rachel et ses amis étaient là pour protéger les Palestiniens parce qu'ils pensaient que leur passeport américain et leur blondeur allaient arrêter les tanks. Ça marchait en général, effectivement. Le tank qui ne s'arrête pas devant un jeune Palestinien s'arrête généralement devant l'américaine blonde. Ce jour-là, il ne s'est pas arrêté. Donc une ligne rouge a été franchie.
Alors est-ce qu'on sait pourquoi il ne s'est pas arrêté, puisque vous menez une véritable enquête hein, dans ce documentaire? On a effectivement un documentaire ponctué par des emails de Rachel, par des images de maisons détruites, des images de bulldozers, des témoignages de Palestiniens qui ont connu Rachel. Et puis vous rencontrez notamment le Major Avital Leibovitch, qui est porte-parole de Tsahal, chargé de l'international. Qu'a révélé votre enquête sur la mort de Rachel?
Il y a une phrase que je cite souvent de Mahmoud Darwish qui disait « Le chemin vers la maison est plus important que la maison ». Et je pense que c'est une phrase qui s'applique à toute démarche artistique. C'est le chemin vers la vérité qui compte au cinéma quand on fait une enquête cinématographique.
Alors, quel chemin?
C'est pas ce qu'on trouve à la fin.
Oui.
Ben, c'est tous ces gens qu'on rencontre. J'ai voulu offrir à Rachel un peu le procès qu'elle n'a pas eu. Il y a eu procès, mais par exemple, la famille palestinienne qui était à l'intérieur de la maison, qu'elle était en train de protéger et qui ont tout vu, n'ont pas été conviés à témoigner au procès. Dans mon film, il y a tout. Ce qu'on trouve à la fin, on ne trouve rien, n'est pas important, puisque de toute façon, l'armée israélienne a continué à avoir la même version, à savoir que le chauffeur ne l'avait pas vu. De toute façon, même s'il l'avait vu, je ne le considère pas comme responsable. Le crime de guerre, c'est pas la mort de Rachel Khoury. Le crime de guerre, c'est le fait d'avoir aplati quasiment une ville entière et les centaines de morts à Gaza, les milliers de morts qu'il y a eu même depuis. Le crime de guerre, il est là.
Alors, au cours de votre enquête, vous interrogez notamment un jeune soldat israélien qui témoigne anonymement, dos à la caméra. Et c'est un moment fort de Rachel.
En quoi consistaient tes missions? Des embuscades à l'artichaut la nuit. Et des incursions à l'intérieur pour exposer des maisons. Et quand des gens armés s'approchaient, on entrait.
Exposer des maisons, c'est les détruire ?
Oui.
Tu en as détruit beaucoup ?
Je ne détruisais pas. Je ne faisais que tirer des obus. Mais on sécurisait les dés neufs. On tire un peu sur la maison pour voir s'il y a quelqu'un. On commence même s'ils ne sortent pas. En général, ils finissent par sortir. Avant, les maisons bordaient la frontière. À mon départ, il y avait un vide d'environ 800 mètres.
Tu dis, on tirait sur la maison, mais en fait, on tirait beaucoup ?
Oui. À certaines périodes, on avait l'ordre de tirer toutes les heures. Pour leur faire peur, sans doute. Donc, on le faisait. Tirer sur une fenêtre, une citerne. Si le commandant aimait s'amuser, on pouvait tirer sur les maisons.
Tu as tiré pour t'amuser ?
Oui.
Extrait en sol majeur de votre doc Rachel, Simone Bitton, donc émotion entre vous deux, perceptible, hein, entre vous et ce jeune soldat.
Il aurait pu être mon fils. C'est tout à fait ce que je ressens face à ces jeunes soldats israéliens. Je pense qu'il me parle aussi franchement aussi, parce que d'une certaine manière, il parle à une figure maternelle.
Juive aussi.
Oui, juive.
Vous lui parlez en hébreu
langue, et qui a de l'empathie pour lui, parce que encore une fois, il fait partie d'un système. Il aurait pu être celui qui a écrasé Rachel Corrie. Et puis c'est un lavage de cerveau. Moi, je suis très, très, très profondément antimilitariste. Plus tellement à la mode, je crois, mais moi, je le suis.
Quel type de difficultés vous avez rencontrées pour fabriquer ce doc?
Oh, vous savez, moi, j'aime pas trop m'apesantir sur les difficultés que je peux rencontrer. D'abord, tous les films sont difficiles à faire. Les documentaires de terrain dans des pays où il y a des checkpoints, etc., et de la violence, encore plus difficile. Mais quand même, nous, la caméra nous protège.
C'est votre arme.
La carte de prénom, c'est pas une arme, c'est un bouclier.
Entre deux.
Alors, ce qui est fort dans votre travail, Simone Bitton, c'est qu'on vous entend parler les deux langues, à la fois l'arabe, à la fois l'hébreu. Il n'y a pas de barrière, si j'ose dire, d'une certaine manière, en vous. Est-ce que vous aimez être les deux, à la fois juive et arabe ?
Ah oui, absolument. Enfin, je le suis, hein, d'abord, c'est un fait. Et oui, je considère ça comme une richesse. Tout ce que je suis, je le suis à 100%. Et française aussi à 100%. Et juive à 100%. Et marocaine à 100%. Et arabe à 100%. Tout ce que vous voulez. Ce que je le suis à 100%. Ce sont des additions.
Vous êtes né en 55 à Rabat, donc au Maroc. Et en 66, votre famille émigre en Israël. On imagine que la politique fait partie forcément du tous les jours. Comment êtes-vous devenu antimilitariste?
En connaissance de cause, puisque je pense, moi, il se trouve que j'ai vu la guerre de près très jeune, puisque j'ai vu la guerre de 73.
Vous faisiez votre service militaire.
Et en plus, je faisais mon service militaire en Israël à l'époque, et je l'ai vu à l'hôpital. On m'a envoyé à l'hôpital.
On est en pleine guerre du Kippour.
Voilà. Et donc, j'ai vu la mort. J'avais 18 ans, 19 ans, et j'ai vu des cadavres d'hommes jeunes. J'ai vu des blessures terribles, j'ai vu la souffrance, je suis allée à des enterrements. Enfin, j'ai vu la guerre, quoi. J'ai vu la guerre de près. Je n'en ai pas souffert moi-même. J'étais pas sous des bombardements. J'imagine
que c'est
beaucoup plus horrible.
Occupée.
Non, j'étais à l'hôpital pendant la
Juste
guerre.
Juste à l'hôpital. Ouais.
C'est là qu'on la voit, la guerre. C'est un des endroits où on la voit bien. Et oui, ça a certainement été un traumatisme, un choc. Je le sais, je le sens, qui a énormément contribué à ma prise de conscience politique et à effectivement à faire le choix de la non-violence et d'estimer qu'il n'y a pas de solution militaire.
D'où votre combat pour plus que la paix, je dirais la justice.
La justice, il ne peut pas y avoir de paix sans un minimum de justice. Il ne peut pas y avoir de paix entre un occupant et un occupé. Si l'occupé reste occupé, il peut y avoir le calme, mais il ne peut pas y avoir de paix.
Alors Simone Bitton, la musique fait partie de votre territoire, on peut dire ça comme ça aussi. D'où Amina Alaoui, que vous avez programmée en sol majeur. C'est de l'arabo andalou marocain, très élégant, avec un morceau, vous allez m'aider à le dire, en arabe. Il y a Adili Billah.
Oui, c'est du Ravnati, c'est-à-dire c'est de la musique andalouse à la fois très codifiée et très libre. Et...
Vous dansez là-dessus ?
Non.
Ça se danse, hein ?
Oui, mais moi je suis consciente de mes limites.
Écoutez Amina Alaoui, Simone Bitton.
Je suis sur la terrasse, j'ai 10 ans. C'était la musique préférée de mon père, ce genre de musique. C'est vraiment la musique des Marocains, quoi. La musique andalouse qui a une grande composante juive. Hein. Ce sont beaucoup les juifs qui ont amené la musique vers l'Afrique du Nord.
On est dans l'amour courtois.
C'est merveilleux. On est dans l'amour érotique, on est dans le vin, et ce petit morceau qu'on vient d'entendre, par exemple, s'adresse aux médisants, à ceux qui évoquent le nom de Dieu pour médire de ceux qui aiment. C'est une sorte de blasphème élégant.
Et tout ça se passe dans le fauteuil d'un sol majeur de notre invitée, la réalisatrice franco-israélienne Simone Bitton. Qui...
Marocano-franco, dans l'ordre marocano-israélo-française.
Je vous remercie. On écoute ensemble Le Point sur le Monde et on se retrouve juste après dans 3 minutes.
En sol majeur.
Clap deuxième sur une réalisatrice de documentaire, Simone Bitton, que vous pourrez croiser si vous êtes sur place, bien sûr, au 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui se déroule du 29 mars au 17 avril. Au menu, des tables rondes avec une certaine Leila Shahid et puis des films, deux notamment de notre invité, Rachel et Mahmoud Darwish et La Terre comme la langue. Beaucoup de films dans la besace de Simone Biton, une juive arabe qui a cette phrase incroyable « J'ai toujours été du côté des perdants, c'est mon côté juif, c'est pourquoi je suis plutôt du côté des Palestiniens ». Vous confirmez ?
Oui, tout à fait.
Mais cette réalisatrice a aussi un autre parti pris, elle est franchement du côté du cinéma.
On n'allume pas la radio aujourd'hui.
Si. On a reçu une lettre de tante Fernande du Canada.
Ça ne va pas ? C'est peut-être la radio ?
Oui, c'est peut-être cette chanteuse. Non. Je ne sais pas quoi leur répondre pour leur invitation.
C'est comme...
Je te l'ai dit.
Cinémascope.
Sylvain, cher Sylvain.
La bande-son du chef-d'œuvre de Chantal Akerman, Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, c'est le titre, et en sol majeur, vous a ressorti la bobine, car vous êtes très fan du travail de Chantal Akerman.
Ah oui, Chantal Akerman, ça a été très très important pour moi et je pense pour d'autres cinéastes de ma génération et surtout les filles. Akerman est apparue comme une bombe sur la scène cinématographique pendant que j'étais étudiante en cinéma à Paris. Et voilà cette femme très jeune qui osait faire des choses absolument incroyables.
Ce film-là est incroyable, hein, et même dans sa forme.
Oui, parce que c'est un film de fiction, mais qui documente les gestes de l'actrice, où il y a des plans-séquences incroyables, les gestes quotidiens de cette femme sont filmés en temps réel. Je veux dire, laver une assiette, ça prend... 50 secondes, et ben les 50 secondes sont dans le film. Enfin, c'est un cinéma complètement d'avant-garde et à la fois d'une simplicité extraordinaire, et tout ça par un petit bout de bonne femme qui devait mesurer 1m55. C'était une grande sœur pour moi.
Une frangine de cinéma.
Ouais.
Votre famille, je crois, n'était pas exactement une famille d'artistes. Simone Biton, un papa bijoutier. Comment le cinéma est entré dans votre vie ?
Très tard. Je suis arrivée à Paris, je devais avoir 21, 22 ans. J'étais une sorte de hippie. J'avais laissé Israël derrière moi, la guerre, toutes ces horreurs que je venais de vivre, de voir. J'ai traversé l'Europe en hippie. Hein. À l'époque, on faisait ça. J'avais un sac à dos, je faisais de l'autostop. J'étais complètement fauchée, libre et heureuse. Et puis, à un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, je suis allée à l'université m'inscrire à Vincennes. Et je me suis inscrite vaguement dans des choses, journalisme, histoire du Moyen-Orient, je tournais autour, je savais pas très bien. Et puis j'avais pris quelques UV en cinéma, comme ça. J'ai commencé à aller de plus en plus à ces cours de cinéma plutôt qu'aux autres. Et puis surtout, j'ai commencé à aller au cinéma. Je n'avais rien vu à cet âge-là.
Et c'est devenu votre langage.
Et puis après, je me suis inscrite au concours de l'IDEC que j'ai eu de la première fois, ce qui était absolument miraculeux.
Ah, vous avez commencé fort, hein. Vous êtes une douée, à l'évidence. Vous avez commencé à obtenir un César, le César du meilleur court-métrage.
Ah non, je ne l'ai pas obtenu, j'étais nominée. Ah, c'était déjà pas mal.
C'est déjà
pas
mal.
Pour mon film de promotion de l'IDEC, oui.
Voilà, c'était à Cannes en 82, pour votre tout premier court, Solange Giraud, née tachée.
Oui, c'est le nom de famille. C'est l'histoire d'un suicide, c'est une enquête sur le suicide d'une femme ordinaire. Voilà.
Une coiffeuse de province.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là ?
Je le suis toujours, mais très féministe, et je pensais, et je le pense toujours, que c'est souvent en racontant un destin d'une personne simple qu'on peut atteindre quelque chose d'universel aussi dans la réflexion.
À quel moment le Moyen-Orient est devenu votre sujet ?
Le jour où j'y ai mis les pieds, hein, à 11 ans.
Et puis, il y aura une somme, enfin, je ne sais pas si on peut le présenter comme ça, Palestine, histoire d'une terre, à partir d'archives que vous exhumez. Qu'est-ce que vous découvrez d'ailleurs sur la base de ces archives ?
C'était extrêmement difficile et très cinématographique, puisqu'il fallait faire parler les images et... beaucoup de travail. Je n'ai pas appris l'histoire, mais j'ai un peu appris à la raconter.
Est-ce qu'une Chantal Akerman ou un Godard qu'on évoquait au début de l'émission a pu influencer votre manière de filmer un mur en Israël?
Ah ben, moi, je ne peux pas faire un plan séquence sans penser à Akerman. Donc oui, il y a beaucoup de plans séquences dans Mur. Donc Akerman a libéré le plan séquence. Donc d'une certaine manière, oui, on peut dire qu'elle est là. Mais c'est très prétentieux, très présomptueux. Ce que je fais n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce qu'elle fait. Quand on est étudiant, on copie les artistes qu'on... Et c'est très bien de copier en phase d'apprentissage. Ensuite, on fait autre chose.
Good morning. Is it possible to come inside to film? Are there people inside praying?
FCOM.
There is a bus from Jerusalem. It will come. When? Now?
Frontier.
Alors la question de la frontière évidemment se pose dans votre très beau documentaire intitulé « Mur », 400 kilomètres de murs érigés par Israël qui dit vouloir se protéger des attentats suicides. Alors comment vous le filmez ce mur, Simone Bitton ?
Je l'ai filmé en train de sortir de terre. J'ai filmé en fait le chantier. Il y avait des bouts terminés, des bouts à peine entamés, des bouts en train de se construire. Et c'était ça qui importait pour moi, parce que je voulais saisir dans le même plan, avant le mur et après, ce que ça serait après. Parce que le mur détruit complètement le paysage. Maintenant, aujourd'hui, quand on en parle... C'est presque le bon vieux temps, quoi. Maintenant, le mur est... Il y a des murs partout. Toutes les localités palestiniennes en Cisjordanie sont entourées par des murs. Il y a des murs.
Vous enquêtez aussi sur qui a construit ce mur. Et il y a des surprises. Il y a des Palestiniens qui construisent ce mur, notamment.
Oui, j'ai été étonnée qu'on soit surpris par ça. Les ouvriers, les tâcherons, ce sont les colonisés, ça a toujours été. Et effectivement, symboliquement, c'est très fort de voir ça, que les Palestiniens en sont réduits pour manger, à travailler comme maçons, à construire les murs qui les enferment. Mais ils construisent aussi les colonies, les implantations. Ce sont eux, les maçons, des implantations qui se construisent sur les terres qu'on leur a expropriées la semaine précédente. Mmh. C'est la même chose dans tous les colonialismes, ça a toujours été le cas. Vous croyez que ce sont des ouvriers français qui ont construit les immeubles coloniaux à Alger ou à... C'est normal, mais effectivement, le cinéma a cette force de faire voir les choses plus fortement qu'en les sachant simplement. Mmh.
Quelles conséquences il a ce mur sur la vie des Palestiniens ?
Ah ben, il a tout changé. Ils sont vraiment en prison, ils sont encagés. L'occupation n'a jamais été aussi dure qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est à cause du mur. Je veux dire, le mur est un outil de domination d'une grande puissance.
Est-ce que depuis ce mur, les Israéliens se sentent davantage en sécurité ?
Je ne pense pas. Je pense que l'insécurité des Israéliens est presque un attribut existentiel de leur psyché.
Une pathologie, vous diriez ?
Oui, c'est une pathologie. Je pense que la société israélienne est malade et que rien n'est fait pour la soigner. C'est-à-dire que tout est fait, au contraire, par ceux qui la dirigent, pour que la peur préside à tous les actes de la vie.
Vous parlez d'un amour malade dans cette question de lien à la terre chez les Israéliens. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est un des personnages du film, un personnage israélien, Kibbutznik, qui exprime ça et que j'ai gardé dans le film, parce qu'effectivement j'ai eu l'impression qu'il mettait des mots sur quelque chose que je ressentais confusément, oui. Il parle de cet amour malade, c'est un peu comme celui qui va tuer la femme qu'il aime parce qu'elle ne lui appartient pas tout à fait, enfin qui préfère la tuer plutôt que la perdre, ou que la perdre en partie, voilà. L'amour des Israéliens pour cette terre est réel, mais il est maladif, il est destructeur. Par exemple, construire ce mur qui détruit complètement. Je veux dire, il faut voir comment Jérusalem est détruite. Il faut voir comment Bethléem est détruite. Enfin, Bethléem, le paysage biblique de cartes postales qui n'avait pas bougé depuis des siècles, n'existe plus. Je veux dire, les oliviers ont été arrachés, les perspectives ne sont plus là. Enfin, c'est terrifiant.
Alors, il y a un très beau moment dans votre film, c'est lorsque vous rencontrez un certain Mouli Peleg. C'est un Israélien qui vit avec sa femme et ses deux fils sur ce qu'on appelle la ligne de couture. Il y a toute une sémantique, hein, d'ailleurs, autour de ce mur. Et il vit donc près d'un village palestinien dont il rêvait, il le raconte, de rencontrer les habitants. Il dit « ce sont nos voisins ». Mais évidemment, avec ce mur, c'est impossible, jusqu'en 2000, où l'occasion se présente, et c'est ce qu'il vous raconte, Simone Bitton.
Je ne crois pas au destin, mais c'est arrivé. Une histoire humaine qui a fait du bruit à l'époque. Un jeune homme de Habla était allé en vacances au lac de Tibériade. En nageant dans le lac, il a vu deux enfants juifs israéliens qui étaient en train de se noyer. Il s'est précipité et les a sauvés. Mais il s'est noyé et il est mort. Cette histoire héroïque universelle a traversé les barrières culturelles et les murs de la haine. Et ça m'a donné envie de créer la rencontre avec les gens de Habla, dont je rêvais tant.
C'est-à-dire que de chaque côté, on essaye de faire tomber ce mur. C'est l'impression que j'ai lorsque je regarde votre travail, Simone Bitton.
Bah, moi, en tout cas, Mur, c'est un film important pour moi parce que j'ai essayé d'y détruire le mur symboliquement. C'est un acte de cinéma très volontaire, quoi. Je peux pas le détruire en vrai, mais chacune des séquences du film le détruit d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui réussit à le traverser, ou il y a quelqu'un qui rêve de le traverser, ou bien... Et je pense que toute ma vie elle tend vers ça.
C'est-à-dire que vous dénoncez effectivement certains aspects de la politique israélienne, tout en prenant soin de montrer des Israéliens, notamment, qui ne sont pas acquis à cette cause. Je me demandais comment votre travail était perçu en Israël.
Ça dépend par qui.
Évidemment, les ultras, on n'en parle pas.
Oui, ben d'abord, il n'est pas beaucoup vu, mon travail en Israël.
Oui,
je ne travaille pas à l'intérieur du système médiatique israélien. Je n'y vis pas. Moi, je vis en France depuis l'âge de 22 ans. Mais je n'y vis pas et je ne fais pas partie du système, ni médiatique, ni cinématographique. Il n'y a jamais d'argent israélien dans mes films, par exemple.
Et c'est ce qui vous permet de travailler librement ?
Je ne sais pas. De toute façon, j'ai toujours travaillé librement parce que sinon, je fais pas, quoi. Si je suis pas libre, je ne fais pas.
Autre doc très important, c'est l'attentat. L'attentat qui revient sur un attentat kamikaze qui a été commis le 4 septembre 97 rue Ben Yehuda par trois jeunes Palestiniens originaires de Cisjordanie, toujours occupés par l'armée israélienne. 20 morts côté israélien, dont trois jeunes adolescentes. Et là encore, vous donnez la parole aux deux camps. Avec, c'est ce que j'ai retenu pour En sol majeur, une parole bouleversante de Nourit. C'est une mère israélienne qui a perdu sa fille dans l'attentat et toute l'estime pour Israël. Extrait.
Quand on opprime tout un peuple pendant 30 ans en l'humiliant continuellement, à quoi peut-on s'attendre? Ces garçons, où sont-ils nés? Que peuvent-ils espérer? Ils sont nés dans la merde. Ils n'ont rien à perdre. Des mauvais sujets, des assassins, on en trouve partout. Mais ici, c'est cela que nous encourageons. En réprimant tout le reste. Nous écrasons leur élite politique, intellectuelle, scientifique. Nous imposons notre censure. C'est notre acharnement qui produit ces monstruosités. Opprimer, c'est tout ce que nous savons faire.
L'attentat avec une grille de lecture particulière sur la souffrance. Je me demande comment vous faites pour obtenir ce genre de témoignage, Simone Bitton.
Ben, pour l'attentat, j'ai fait quelque chose de très simple que je m'étonne que d'autres n'aient pas fait avant moi ou après moi. C'est-à-dire, je suis allée voir les parents des morts des deux côtés, parce que dans un attentat suicide, il y a ceux qui sont tués par les kamikazes et il y a les kamikazes eux-mêmes. Leur sang s'est mêlé sur le trottoir. Dans un attentat suicide, voilà, le sang du bourreau se mêle à celui de la victime. Et tous ces gens-là étaient jeunes,
et ont des parents. Donc je suis allée voir les parents des uns et des autres. Et le film est fait uniquement avec les parents. Je n'enquête pas du tout sur l'attentat en lui-même, en tant que phénomène sociopolitique, par exemple. Non, je suis simplement allée voir des parents endeuillés.
Et les parents des kamikazes,
j'ai recueilli la parole des
sont
parents.
Aussi bouleversants que les parents des victimes israéliennes.
Vous savez, rien ne ressemble autant au regard d'une mère en deuil qu'un autre regard d'une mère en deuil. C'est, les deux ont perdu leur enfant, et je dirais même que pour la mère du kamikaze, il y a presque une douleur supplémentaire qui s'ajoute du fait que son fils s'est aussi suicidé. Il a refusé la vie qu'elle lui a donnée, et en plus il l'a tué. Donc la souffrance de la mère du kamikaze est quelque chose de bouleversant, et qui moi personnellement m'a bouleversée.
Et qui ne peut pas récupérer en plus le corps de son fils,
et qui très souvent n'ont pas récupéré le corps de leurs enfants, et puis qui en plus sont soumis en Israël à un châtiment collectif tout à fait légal, instauré, c'est-à-dire qu'on détruit leur maison, on torture les frères et sœurs, enfin, les familles souffrent beaucoup.
Mais ce que vous montrez à voir, effectivement, ça paraît naturel, comme vous le dites, mais c'est peu montré, finalement. C'est la souffrance dans les deux camps. Et il y a d'ailleurs la note d'humanité, si j'ose dire, sur le gâteau, dans votre documentaire. C'est cette scène où on voit des parents israéliens, donc qui ont perdu leur enfant dans l'attentat, aller voir un psychiatre palestinien.
Oui. ce sont des parents dont la fille a été grièvement blessée. Elle n'est pas morte. Et ils sont allés voir Eyad El Sarraj, qui était un ami très cher, un psychiatre à Gaza. Et cette conversation a été effectivement très importante, je crois, pour eux deux. Lui aussi a été très ému d'essayer d'expliquer à ses parents israéliens ce qui se passait dans la tête de celui qui avait presque tué leur fille et qui était mort en le faisant.
Il y a dans ce documentaire cette phrase de Nourit, cette mère qui a donc perdu sa fille dans l'attentat, cette phrase forte: il faut boycotter ce lieu, Israël, jusqu'à ce qu'il soit normal.
C'est incroyable, hein. À l'époque, il n'y avait pas encore de mouvement de boycott des produits israéliens ou d'Israël, voilà.
Est-ce que cette phrase, vous pourriez la reprendre à votre compte?
Personnellement, aujourd'hui, oui, je pense qu'il faut imposer des sanctions économiques, politiques, diplomatiques, absolument. Et je pense, comme les gouvernements occidentaux ne le font pas, je pense qu'il est bon que la société civile fasse entendre leur voix.
Quel rapport vous entretenez avec votre judéité ?
Ah ben, tout à fait serein. Je ne suis pas croyante. Mais je suis de culture juive, c'est ma culture, c'est une des langues importantes qui circulent dans mon cerveau, l'hébreu. C'est une composante très importante de mon identité, et je n'aime pas quand on me la confisque, justement. L'identité juive, aujourd'hui, est clairement confisquée en grande partie par Israël et par les soutiens d'Israël dans le monde, et en particulier en France. Les notables de la communauté juive organisée en France ne parlent absolument pas en mon nom, ça je tiens à le dire.
Et si on vous taxe de faire de la propagande antisémite avec vos documentaires, vous répondez quoi ?
Je ne réponds même pas, parce que c'est tellement ridicule. Je pense que je suis plus juive que les juifs qui disent ça.
Ça veut dire quoi ?
Ben, ça veut dire que pour moi, être juif, c'est savoir être du côté des faibles et des opprimés. Parce que nous l'avons été. Nous avons été massacrés, nous avons été haïs, nous le sommes encore, parce que l'antisémitisme existe d'une certaine manière, beaucoup moins. Et tout cela devrait nous porter à être solidaires de ceux qui subissent le même genre d'injustice.
Que représente la Terre Sainte pour vous ?
Pour moi, elle n'est pas sainte, et sa sainteté lui fait plus de tort que de bien, puisque c'est au nom de cette sainteté que beaucoup de violences sont commises. Mais elle est chère à mon cœur, oui.
Bishvilchem lachzor habayta ze efo. Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?
entre Paris, le Maroc et Israël.
Rentrer à la maison, c'est rentrer très prosaïquement dans mon appartement parisien et y arroser mes plantes et mettre sur les étagères les livres et les DVD que j'ai ramenés de je ne sais où. Mmh. Voilà. Et Paris, c'est très bien pour moi parce que c'est au milieu, c'est le hub entre le Maghreb et le Mashrek. C'est parfait.
En Israël, est-ce qu'on vous prend pour une juive ou une arabe ?
Tous les gens qui me connaissent savent que je suis juive.
Mais quand on vous connaît pas, parce que là il y a
quand
une
on me connaît pas aussi
dans mur avec des enfants que vous filmez justement tout le long du mur et vous avez une conversation.
Les enfants peuvent se tromper, les soldats peuvent se tromper parce que je joue de ça. Non, je suis vue pour ce que je suis, mais dans le cadre de mes tournages, dans les cadres de mon travail, je joue un personnage, même si on ne me voit pas dans mes films, on m'entend.
C'est un personnage.
Et là, des fois, c'est un personnage qui est un petit
double.
Peu construit pour les besoins du film à chaque fois, et ce personnage change de casquette quand il le faut. Souvent, au checkpoint, je vais parler anglais. Parce que c'est plus facile d'être une journaliste américaine qu'une documentariste israélienne. Donc je parle anglais, des fois ça peut marcher avec le soldat. Ça aide, je change de casquette.
Alors pour enfoncer le clou, si j'ose dire, pour refermer cet ensemble majeur, on va le faire avec des rappeurs palestiniens, puisque vous avez programmé, Simone Bitton, le groupe Dam.
Dam qui veut dire, en hébreu et en arabe, le sang, Dam. En arabe et dame en hébreu. Oui, j'ai programmé ça parce que c'est un cri de révolte de jeunes à l'horizon complètement bouché et c'est un cri de colère là.
بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نصيت وحكيت ما انتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنه نسيت انه استحق ضب الاهل تحت الحجار وقلع لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد وراه همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتوا لسه امتى خبرتوا اطلعوا قديش قتلتوا وقديش قدمتوا امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتوا انتوا خبرتوا بدلع احنا كبرنا فقر مين كبر في وسع ومين كبر في جحر صار في داعي عملتوا منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي
مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد تاني كيف تتوقع مني اشكر لاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دخياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث مزتتات بيوت مهدوم عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت امر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر
كيف التيروريست است كو سي موا التيروريست نون سي توا لو تيروريست فوالا سكو En substance, disent les rappeurs palestiniens du groupe Dem et de leur rap à la scansion poétique d'un Mahmoud Darwish, ben justement, il n'y a qu'un flot.
لم أحفظ سوى الإيقاع أسمعه وأتبعه وأرفعه يماما في الطريق إلى السماء سماء أغنية
Un court extrait de votre doc Mahmoud Darwish et la terre comme la langue qui a fait l'ouverture du 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Simone Bitton, une dernière question. Vous qui êtes effectivement entre la France, le Maroc dont on a trop peu parlé et Israël, est-ce que la langue poétique d'un Darwish, c'est devenu votre terre ?
Darwish, c'est le poète de l'exil. Et je pense que tous les exilés se reconnaissent en lui. C'est pour ça qu'il a acquis, à partir du moment où les traductions ont commencé à circuler, une telle stature internationale. Et oui, certains poèmes de Darwish sont pour moi aussi une maison, absolument.
En sol majeur, c'est sur RFI.fr, Facebook et Twitter.
Merci Simone Bitton d'être passée nous voir en sol majeur à l'occasion du 11e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui se déroule donc du 29 mars au 17 avril. À noter une rencontre avec vous le 31 mars au cinéma L'Écran à Saint-Denis autour de votre film Rachel. En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 15h à Paris. On vous retrouve la semaine prochaine pour un spécial Salon du Livre. À la semaine prochaine.